Bonjour à toi, Warrior, qui nous écoute depuis peu ou depuis toujours. Yes Podcast a besoin de toi pour continuer d'exister. Et oui, on en a parlé dans l'épisode 52, depuis 2 ans, l'existence de ce podcast repose sur le travail gratuit des femmes, en l'occurrence nous. Vous êtes plus de 10 000 auditeuristes à nous écouter chaque mois. Si vous mettez tous 1 euro, ça peut nous changer la vie. Et si tu ne peux vraiment pas, n'hésite pas à partager notre appel ou à nous mettre une pluie d'étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Le lien de la cagnotte est en description et sur notre Insta. Elle s'appelle De la force pour les warriors. Dans tous les cas, merci à toi et gros love.
Yes!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Bonjour à tous, bonjour à toi. Tu es en train d'écouter Yes, le podcast qui donne la pêche et la patate.
Bam, 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 bam.
J'étais ambiance fruits et légumes ce matin. Alors aujourd'hui, c'est Zina au micro et je suis accompagnée d'une de mes warriors préférées, même si ce titre est un peu discuté. Elle a plus d'une corde à son arc et aujourd'hui, plusieurs arcs, à son dressing, j'ai nommé Marga. Comment ça va?
Ça va, je suis venue couverte de flèches et d'arcs.
J'aime beaucoup l'image. Alors aujourd'hui, on va parler de fringues. Encore une fois, c'est la deuxième partie de l'épisode consacré aux habits. Et je dois reconnaître que c'est un sujet qui pique. Comment s'habite-t-on dans une société sexiste à plusieurs titres? Derrière la mode et les paillettes, il y a des personnes qui souffrent à toutes les étapes de la chaîne de production. Je pense aux personnes qui produisent nos habits dans des conditions de travail meurtrières. Je pense à nos warriors qui ne peuvent pas s'habiller parce que l'industrie textile est encore beaucoup trop intolérante pour faire des tailles adaptées à leur morphologie et ou handicap. Racisme, classicisme, sexisme, grossophobie et validisme. Derrière les rayons bien achalandés, des prêts à porter, les oppressions sont multiples. Comment on fait quand on veut boycotter la fast fashion, mais que les quelques marques éthiques que l'on connaît sont beaucoup trop chères pour nous? Ou que l'on est prêt ou prête à mettre le prix, mais que la marque ne fait pas notre taille? Mais tout d'abord, on aimerait vous partager le retour d'une auditrice qui a été choquée le 8 mars en ouvrant la boîte mail de son entreprise.
Eh oui, bah c'est d'une banalité, mais ça m'énerve à chaque fois. Donc Laura raconte qu'elle est dans une boîte où l'ambiance est parfois un peu lourde, comme elle dit. Et donc le 8 mars dernier, toute l'entreprise reçoit un mail de la DRH avec comme objet « Bonne fête à toutes les femmes
oh, !» oh,
avec un contenu genre « Vous êtes formidables les femmes, merci pour votre implication dans l'entreprise, on ne vous oublie pas, ok ?» Et donc évidemment ça l'a énervée et elle a répondu en plusieurs points à ce mail, déjà elle a osé le faire, déjà bravo. Donc elle a répondu en disant « Déjà c'est pas la fête des femmes, mais c'est la journée internationale des droits des femmes, c'est une journée de commémoration, de réflexion et de... »
Mobilisation.
Et oui, avec en conclusion de son mail, après avoir développé tout un tas d'arguments, cette petite phrase, j'espère que vous accueillerez avec bienveillance ce message et que l'an prochain, vous éviterez les fleurs, les paillettes et autres remarques pouvant entretenir des clichés sexistes contre lesquels cette journée lutte.
Bravo, trop
bien. Bam.
Waouh.
Déjà, waouh, déjà oser envoyer ça, franchement. Et ce qui est super, c'est que Laura nous dit que les réactions étaient plutôt positives. Elle a reçu beaucoup de soutien dans son entreprise où l'ambiance est lourde, donc comme quoi des fois il faut oser. Elle nous dit « Je me suis sentie en accord avec moi-même et confiante dans le fait que j'ai eu raison d'envoyer ce mail. » Et oui, Laura, tu as eu raison. Et encore bravo pour ton courage, parce que c'est pas évident. Et tu nous prouves que vraiment, ça vaut le coup d'agir, que des fois on est agréablement surprise.
Trop forte. Alors on passe au témoignage et je vous propose d'écouter Sherazade, pour commencer, Sherazade anime le compte Stop Grossophobie. Et il est vrai que quand on est grosse, de nombreuses difficultés s'ajoutent à l'habillement, car il n'est pas aisé de trouver sa taille, et que dans ce contexte, appeler à boycotter la fast fashion, ça peut même être discriminant.
S'habiller quand on est une personne grosse, c'est compliqué, parce que la principale offre disponible en vêtements grande taille vient de l'industrie de la fast fashion. Les vêtements dits « éthiques », entre guillemets, qui s'assimilent plus à du greenwashing que à de la réelle éthique, vu que les conditions de travail ne sont pas prises en compte des personnes qui sont exploitées pour produire ces vêtements et que derrière, il y a tout un système capitaliste. Il n'existe que l'offre en fast fashion pour les personnes grosses. Parce que les vêtements donc qui sont dits éthiques, ils sont trop chers. Ils sont trop chers et donc, comme on le sait, dans les populations obèses, la précarité est surreprésentée. Et donc, ces personnes n'ont pas la possibilité d'acheter des vêtements dits de mode durable, éthique, parce qu'ils sont inaccessibles de par leur prix. En plus, il faut savoir qu'il y a d'autres facteurs qui entrent en compte pour l'accessibilité des vêtements pour les personnes grosses. Le fait, par exemple, que si quelqu'un qui fait un 54 aura plus de difficultés à trouver des vêtements que quelqu'un qui fait un 46-48. Et il faut savoir que la personne qui porte un 54 va faire principalement, presque exclusivement, ses achats en ligne. Elle n'aura pas la possibilité d'aller en magasin pour essayer les vêtements et faire du shopping comme les personnes normées. Et il y a un autre point, c'est les personnes grosses dites « infini fat », entre guillemets. C'est un concept qui vient de Fat Lib Podcast. Et ce sont les personnes qui font du 60 et plus. Donc ces personnes sont obligées de faire des achats sur des sites spécialisés, souvent des sites qui sont américains ou anglais, et elles s'exposent du coup à des frais de douane très importants, des frais de port très importants, et aussi les vêtements sont beaucoup plus chers. Et elles s'exposent aussi au fait qu'elles ne sont même pas sûres en passant leur commande que ces vêtements leur iront, et renvoyer les vêtements pour faire un retour pour remboursement leur coûtera souvent plus cher que de les garder et de les mettre par exemple sur des applications de vente de vêtements de seconde main. Et là, du coup, je peux en venir à pourquoi en fait c'est hypocrite de conseiller, de recommander aux personnes grosses d'acheter uniquement, enfin de boycotter les vêtements de fast fashion, c'est que la réalité, c'est que l'offre qui est disponible pour les personnes grosses, elle est très limitée. Et ce qu'il faut savoir, c'est que acheter des vêtements de seconde main pour une personne grosse, c'est un peu jouer à la loterie. C'est-à-dire que déjà, de par le fait de nos morphologies, on sait qu'il y a des usures précoces qui se font pour les vêtements au niveau de l'entrejambe, les cuisses, les fesses. Et que ces vêtements, alors même quand on les achète neufs, ils ont une durée de vie très courte, parce que c'est propre au procédé de fabrication et à la fast fashion. Les acheter en seconde main, c'est pas forcément quelque chose qui est possible pour nous, parce que l'offre est encore plus réduite. Et en plus, voilà, on peut s'exposer à des vêtements de seconde main, de mauvaise qualité. Donc oui, la seconde main, ça peut être une option, mais c'est pas quelque chose qui doit devenir comme une injonction obligatoire auprès des personnes grosses, parce que en fait, nous aussi, nous les personnes grosses, on a le droit de vouloir et de pouvoir s'habiller comme on le veut, et pas juste comme on le peut, et d'hériter de vêtements de seconde main par défaut, pas vraiment parce que c'est quelque chose qui nous plaît. On peut avoir une personnalité très marquée et un style vestimentaire très marqué, et vouloir utiliser par exemple la mode comme mode d'expression, et faire cette injonction envers les personnes grosses de boycotter la fast fashion, c'est quelque chose qui est pas ok, parce que ce sont pas les personnes qui consomment le plus de fast fashion, il faudrait plutôt conseiller aux personnes normées qui ont les moyens de consommer autre chose que de la fast fashion, de plutôt se diriger vers ces réseaux de mode éthique, durable, plutôt que d'acheter du coup de nouveau de la seconde main et de nouveau de la fast fashion. Voilà, c'est ça que je n'accepte pas dans ces injonctions qui sont faites aux personnes grosses. Ce sont ces injonctions à obligatoirement boycotter la fast fashion, alors que les premières consommatrices de fast fashion, ce sont les personnes normées, et que ce sont elles qui peuvent faire basculer la balance en justement en boycottant la fast fashion et allant vers des réseaux de mode plus durables, plus éthiques, plutôt que de se rabattre sur la seconde main. Surtout quand elles en ont les moyens, parce que consommer de la seconde main fast fashion, c'est alimenter de nouveau le circuit de la fast fashion.
Mais passionnant.
Ouais, merci beaucoup, Sherazade, c'est très intéressant. Très intéressant. Et très juste. C'est vrai que moi, j'avais pas vu les choses comme ça, mais oui.
On se rend pas compte de toutes les injonctions qu'il y a sur les personnes grosses. C'est que non seulement elles ont une offre réduite, mais en plus, de par les causes environnementales, les comportements alimentaires, qui expliquent beaucoup que dans les personnes grosses, il y a beaucoup plus de précarité. Donc, on a moins de choix, on trouve moins notre taille. Et en plus, faudrait qu'on achète des marques hyper chères ou alors qu'on aille faire de la ressourcerie, alors qu'en fait, nos morphologies fait qu'on use les habits différemment. Et effectivement, à ce propos, moi, il n'y a pas très longtemps, j'ai découvert une gamme d'Uniqlo qui fait des leggings avec un entrejambe renforcé et j'étais trop contente. J'étais trop contente parce qu'on ne se rend pas toujours compte quand on a un corps normé que ça, c'est le genre d'usure qui va vachement nous impacter et qui va faire qu'on va user les fringues vachement plus rapidement. Et puis j'aime beaucoup, Sherazade, quand tu dis on a le droit de vouloir et de pouvoir s'habiller, parce qu'il y a ce truc de double contrainte. Enfin, il y a ce côté un peu prenez les restes, quoi. Prenez les restes, en fait. Comme tu le dis très justement, si vous voulez boycotter le modèle de fast fashion, c'est très bien, mais faites-le avant nous, parce que vous êtes massifs, vous êtes les consommateuristes qui sont directement visés par ce business model, donc allez-y vous, et puis quand vous aurez modifié le modèle, permettez-nous de nous inclure, quoi.
Exactement, et je trouve que ça rejoint aussi, le discours sur l'injonction en boycott, ça rejoint aussi notamment les personnes précaires aussi, qui n'ont pas forcément les moyens de boycotter, parce que moi j'entends beaucoup ça de oui, mais on peut aller acheter en seconde main, machin, mais en fait c'est énormément de temps, en fait, ouais. Aussi, au-delà du fait de, surtout quand on n'a pas un corps normé, un corps gros, ou quand on a un handicap, on va pas forcément, en fait c'est ça, quand c'est limite un hobby, en fait, d'aller dans les friperies, dans les ressourceries, parce qu'on rentre dans le magasin, on ne sait pas ce qu'on va trouver, on ne sait pas si on va trouver quelque chose qui va nous plaire, on ne sait pas si on va trouver quelque chose qui va nous aller. Et quand on est dans une situation de précarité, où par exemple, je ne sais pas, on doit aller à un entretien d'embauche, ou on doit prendre un nouveau travail, et on n'a pas forcément une garde-robe, parce qu'on n'a pas, les moyens d'avoir pu construire cette garde-robe, et on se dit, là, va falloir quand même que je fasse un effort d'avoir des vêtements un peu propres, et qu'ils fassent un peu classe, ou qu'ils fassent un peu, et qu'on a un nouveau travail, qu'on n'a pas encore eu son salaire, par exemple, c'est difficile de se tourner vers autre chose que de la fast fashion pour avoir un éventail de vêtements qui va te permettre, sur une durée d'un mois, de ne pas t'habiller tous les jours pareil, pour ne pas avoir des remarques de tes collègues, ou en tout cas te sentir à l'aise. Donc, je trouve que ça a des limites, quand même, ces appels au boycott, parce qu'il y a tout un tas de personnes pour qui c'est
compliqué. Puis il y a le rapport au temps aussi. Exactement. Comme tu disais à l'instant, il y a les entretiens d'embauche, les situations précaires, mais il y a aussi quand t'as des enfants et que tu dois taffer de ouf et qu'à la maison, tu dois t'occuper de ta famille. En fait, tu peux pas toujours flâner pour faire les boutiques de seconde main ou les ressourceries. C'est compliqué. C'est une loterie. C'est pas aussi sûr que d'aller direct dans le magasin de fast fashion ou en ligne, parce qu'il y a beaucoup ce truc d'aller en ligne aussi, où tu sais que tu vas pouvoir viser ton besoin, quoi.
Oui, et puis ça rejoint aussi quelque chose que je vis pas mal aussi, de se refiler les fringues des enfants,
ouais.
Entre alors parents. Et c'est vrai que c'est super cool sur le papier, parce que c'est chouette, ça permet de faire des économies, mais encore une fois, c'est qui s'y colle.
Évidemment.
C'est les darons.
Pas de surprise.
Et en fait, ouais, c'est cool aussi de se dire, j'habille mes enfants de seconde main, mais la charge, elle repose toujours sur les mêmes aussi. Donc au bout d'un moment, moi, je comprends comprends, hein, la meuf qui à un moment dit j'ai envie d'habiller mes gosses, mais en fait j'ai trop la flemme de faire le tour de mes copines, de demander qui a quoi, de trier, parce que tout ne va pas, parce qu'il y a des trucs usés, parce qu'il y a des trucs tachés, machin, machin. Bah en fait, ouais, tu vas faire un tour sur un site en ligne et puis tu prends tous les trucs, tu sais, tu connais la marque qui va à tes enfants, machin, t'achètes et puis c'est fini, quoi. Il y a aussi toute cette charge qu'on oublie souvent, mais cette charge du vêtement, et je parle même pas des meufs qui achètent les fringues de leur mec, quoi. Enfin, là, c'est encore un autre sujet. Donc voilà, tu devrais t'occuper d'habiller.
Sky de limite.
Voilà, habiller toute ta famille, t'habiller toi-même de façon éthique. Alors,
soit en mode
éthique si t'as les moyens, soit sinon aller dans les friperies pour habiller toi-même, plus tes trois gosses, plus éventuellement ton mec. Non, stop, ça suffit. Donc voilà, pas de. On sait que toutes ces enseignes Shein, Primark, H&M, c'est pas terrible parce que c'est vraiment un modèle qu'on aimerait abolir, mais en vrai, il y a aussi la vie, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, le temps qu'on a, l'argent qu'on a, le corps qu'on a, et vraiment, faut aussi se dire, moi, je ne peux pas en ce moment, c'est pas possible.
Ouais, encore une fois, on peut pas être les seuls à absorber la charge d'un modèle défaillant.
Exactement.
Marga, tu vas nous présenter le témoignage de M.
Oui, alors M est grosse et elle nous raconte comment elle a réussi à s'affranchir du regard des autres. Déjà, bravo. Et elle porte aussi une réflexion intéressante sur l'accès à la mode éthique et aux fringues de seconde main. On l'écoute.
Donc, moi, c'est M, j'ai 30 ans et mon combat avec les vêtements a commencé dès mes 17 ans parce que je suis grosse et je suis en surpoids depuis toute petite et j'ai commencé à m'habiller comme je voulais à partir de mes 17 ans. Et ça, c'est toujours un peu le cas. Au début, je m'habillais de façon très féminine. Je performais vraiment la féminité et il m'a fallu du temps pour me dire que j'avais le droit de porter des fringues qui me plaisaient, qui n'étaient pas inconfortables et qui surtout en fait étaient jolies à mes yeux et pas aux yeux des autres. Et notamment, sans surprise, par rapport à ma mère et à mon entourage qui pouvait facilement me dire que soit je m'habillais trop court, trop coloré, trop masculin aussi maintenant, parce que j'ai fait mon coming out non binaire et je mets moins de vêtements, je mets des vêtements comme je le sens et plus par rapport à comment je veux que les autres me perçoivent. Et du coup, ça fait un bien fou et c'est un soulagement incroyable. Voilà. Et je tiens à préciser aussi que je suis pour le port de vêtements plus éthiques, mais que ça existe très peu pour les grandes tailles et que c'est une lutte au quotidien pour s'habiller. Donc s'il vous plaît, ne fat-shamez pas vos copines, vos copains ou vos amis, quoi, vos potes qui s'habillent comme ils peuvent, en fait, parce qu'on ne leur permet pas forcément de pouvoir s'habiller comme ils le souhaitent, ou comme elles le souhaitent plutôt. Et voilà, c'était juste pour un petit message peut-être à faire passer. C'est-à-dire que je vois beaucoup de gens parler du fait que c'est super simple de s'habiller en éthique et tout, mais pas quand on est grosse, en fait. Pas quand on est gros. Ça commence un petit peu, je pense notamment à la marque Big Fat Fashion, mais ça reste à des prix qui sont pas forcément abordables pour tout le monde.
Merci beaucoup, M.
Et bravo.
C'est clair. Warrior.
Voilà, pour ton combat avec les fringues, comme tu dis. Ça me rappelle complètement ce que disait Keisha dans l'autre épisode qu'on vous conseille d'écouter si vous l'avez pas déjà fait, la première partie de cet épisode sur les fringues. Keisha qui racontait un peu comment elle avait évolué aussi dans son rapport aux vêtements en fonction de comment elle grandit, comment on mature aussi. Et du coup, bravo en fait d'assumer tout ça. Et Zina, elle le dit, hein, M. Qu'elle a eu beaucoup de remarques sur le fait de porter des trucs trop courts, trop colorés. Il n'y a pas un peu ce truc de quand on est grosse, en fait, les gens ont envie de t'invisibiliser un peu, en fait, que par tes vêtements, genre, tu sois pas trop voyante. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ressens, toi aussi ?
Complètement. La volonté de nous invisibiliser, elle est présente de par plein d'aspects, mais il y a aussi ce truc, mets du noir parce que ça va t'amincir, attention, les rayures, ça grossit. Enfin, la grossophobie, elle est aussi dans les fameuses sacro-règles de l'habillement. Donc ça, c'est ouf. Et le message de M, merci beaucoup, bah, elle rejoint celui de Sherazade. Hein,
exactement, qui est que, je dis, c'est genre l'illustration. De
parfait.
Ce que, c'est ça.
Genre, les gens font comme ils le peuvent, et voilà. Effectivement, ils ne peuvent pas beaucoup dans ces conditions-là.
À un moment, elle parle de fat-shaming aussi, M.
Ah,
qu'est-ce
oui.
que ça veut dire, fat-shaming? On connaît slut-shaming, mais fat-shaming...
Construction sur le même principe, c'est le fait d'humilier des personnes sur leur grosseur, à ne pas confondre avec le body-shaming, qui est le fait d'humilier des personnes sur leur corps. Et souvent, on a l'impression d'être humilié sur sa grosseur parce qu'on a de la grossophobie intériorisée, mais quand on a un corps normé, on souffre de body-shaming, et quand on est une personne grosse, de fat-shaming, ne faites ni l'un ni l'autre, en fait.
Ouais, c'est ça. Laissez le corps des gens tranquille, ne donnez pas votre avis, merci.
Ah bah parfait, sur cette phrase, une petite pause s'impose. Alors, on enchaîne ensuite en écoutant Matou, une amie et illustratrice dont j'adore les dessins. Si jamais vous la connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir son travail sur Instagram. Avec Gabrielle Dédier, l'autrice de On ne naît pas grosse, qui est une militante anti-grossophobie et grosse également, elles ont fait des planches pour sensibiliser le public au principe de la, enfin, justement, la discrimination de la grossophobe, dont je rappelle qu'il s'agit de l'ensemble des discriminations que subissent les personnes grosses. Hein. Donc, toutes les deux, on a déjà parlé de comment c'était de s'habiller avec nos morphologies. Cette joie de tous les jours. Et le sujet l'inspire beaucoup, je vous propose de l'écouter.
Que je ne suis pas rentrée dans un magasin physique pour m'acheter des vêtements depuis, je pense, une bonne dizaine, voire quinzaine d'années, je pense. Je rentre quand je peux m'acheter une écharpe ou un grand gilet loose, voilà, mais et encore, ou un bonnet, ou enfin voilà, des choses qui sont plus taille unique, même si voilà, on a toujours la déconvenue d'avoir une taille unique qui soit pas vraiment unique. Et qui de fait ne me convient pas non plus. Ça m'est arrivé pour des bonnets, hein, donc voilà. Parce que je dois avoir aussi une grosse tête en plus d'avoir un gros corps. Bref, voilà. Donc en fait, moi, je ne fais que de la vente en ligne. Enfin, je me connecte à des sites et j'achète en ligne. Voilà. Et sinon, eh bien, effectivement, moi, je m'achète beaucoup de choses en fast fashion. Alors, effectivement, c'est déplorable écologiquement. Mais c'est presque les seuls choix qu'on peut avoir aujourd'hui pour s'acheter des fringues jolies, voilà, pas s'habiller comme un sac en étant une personne grosse et en souhaitant vraiment se faire plaisir. Donc, de fait, moi, j'achète sur H&M grande taille. Il y a pas mal de trucs sympas sur Azos, bien sûr, sur Violetta, la marque grande taille de Mango, qui avant était disponible parfois en boutique mais qui ne l'est plus du tout. Voilà, les magasins préfèrent les magasins physiques ne font que du petite taille, mais par contre sur le site en ligne on trouve beaucoup plus de grande taille. Donc là aussi il y a des pièces assez sympas. Voilà,
Matou.
Merci Matou beaucoup pour ce témoignage.
Merci infiniment, c'est ouf en fait, vraiment, on ne veut pas voir de personnes grosses dans les rayons des boutiques.
Ouais, cette remarque est glaçante en fait. Enfin, j'avais jamais fait le lien entre le fait qu'il n'y ait pas de taille disponible au-dessus du 42-44 et le fait qu'en fait, oui, c'est du coup, il n'y a pas de personnes grosses visibles dans les magasins parce que juste, il n'y a rien pour elles en fait.
Exactement, et ça va même au-delà de l'intérêt capitaliste. C'est ça qui est ouf, c'est que quand tu regardes le marché, il y a énormément de personnes grosses qui sont des consommatrices potentielles, mais on préfère ne pas les avoir pour cette idée de communication de notoriété, pour cette idée très grossophobe qui est bien installée dans l'industrie textile. Et du coup, il y a t'as les marques qui vont faire en sorte qu'il n'y ait pas les tailles pour les personnes grosses. Et puis, t'as aussi les marques qui se disent « Tiens, il y a un truc juteux à faire. » Je pense notamment à Uniqlo, qui va faire des grandes tailles, mais les grandes tailles, c'est que en ligne. Et si jamais tu rapportes en magasin, ben, on ne veut pas te le changer, même si le truc est en rayon.
C'est
ouf.
C'est dingue.
Ouais. Donc, on t'oblige à passer par la procédure de frais de livraison. Et ça, c'est vraiment genre message pas du tout subliminal de « on vous veut pas ici, en fait ».
Oui, et puis on vous veut pas dans nos cabines d'essayage, en fait.
C'est ça.
Ce qui est très relou, en fait, parce que si tu veux être dans une démarche, comme je disais dans l'autre épisode qu'on a fait, la partie 1, de moins consommer, c'est très important d'essayer les vêtements que tu veux acheter pour être sûr que c'est quelque chose qui te va, qui te plaît, que tu vas reporter. Et donc, du coup, c'est ce que disait aussi Sherazade tout à l'heure, en fait, c'est que tu te retrouves, en fait, en tant que personne grosse, à jamais pouvoir essayer les vêtements.
Jamais. Et absorber la charge des frais de livraison, et absorber la loterie, le risque d'essayer un truc dans ton salon.
C'est un casse-tête de dingue, en fait.
Ouais, c'est hallucinant.
De s'habiller. Ouais, et c'est vrai que moi, j'avais jamais vraiment fait le rapprochement. Et elle nous a parlé quand même aussi dans son témoignage de certaines marques, il me semble, Matou, de marques qu'elle aime bien. On vous les cite ici pour que vous puissiez aller voir sur leur site. Alors, ça, moi, je connais pas forcément, mais je fais confiance à Matou. Alors, elle a une marque qu'elle aime particulièrement, c'est la marque Almé, qui fait des vêtements. Alors, il faut quand même compter 70 à 100 euros pour une pièce. Donc,
c'est pas accessible pour tous, mais le rapport qualité-prix est pas pourri, parce que c'est fait en France, c'est de la bonne qualité. Donc, voilà. Et puis, apparemment, ce que Matou me disait, c'est que les combis tiennent assez bien. Voilà, je partage l'info.
Voilà. Elle a parlé aussi d'une marque française qui s'appelle Make My Lemonade, en disant que c'est pas forcément parfait, parce qu'au niveau grande taille, tout n'est pas disponible, mais que bon, il y a quand même un effort de fait, et surtout, c'est des conditions de fabrication plus éthiques, notamment Made in France.
Et avec aussi des campagnes sympas, où on voit un peu des personnes de tous les corps et toutes les couleurs.
Exactement. Et des vêtements plutôt sympas. Moi, j'ai regardé un petit peu beaucoup de couleurs. Moi, ça me plaît bien. Et enfin, Daily Paris, qui est une marque qui m'a l'air justement plus parisienne, un peu plus... un peu moins colorée, on va dire, que Make My Lemonade.
De chic parisien, bleu marine et noir.
Voilà, c'est pour les amateuristes.
Merci beaucoup, Matou, en tout cas.
Ouais, merci.
Alors ensuite, on va écouter le témoignage d'une amie qui s'appelle Linda, dont j'aime beaucoup le travail. Elle a un compte Insta qui s'appelle Envie, donc c'est un jeu de mots, c'est A-N.V-I-E, que j'ai connue en m'intéressant à la démarche de l'alimentation intuitive il y a quelques années. Et sur les fringues, c'est parfois, souvent même, le rapport au corps qui transparaît.
L'anecdote que moi j'aimerais partager... C'est une histoire que j'ai racontée via un post sur mon compte Insta. C'est ce moment où, en fait, il y a 2 ou 3 ans, je ne sais plus exactement, je me suis faite une réflexion en sortant. C'était l'été, il faisait chaud. Je suis une personne grosse, j'ai toujours complexé sur mon corps. J'ai toujours eu honte de mon corps. Et j'avais déjà beaucoup travaillé sur la grossophobie, sur mes TCA, sur le fait d'apprendre à porter des vêtements qui me plaisent à moi, et sans prendre en compte les injonctions du type « quand on est grosse, il faut porter du noir pour paraître plus mince, faut pas montrer sa cellulite ». Donc voilà, j'avais déjà assez avancé dans mon état d'esprit, et pourtant, il y a eu ce jour où je suis sortie avec les bras dehors, en fait, et c'était un de mes plus gros complexes, mes bras, et je me suis sentie tout d'un coup comme si j'étais nue dehors. J'avais honte, j'ai senti toute la grossophobie intériorisée en moi, qui se soulevait, et d'un coup il y a une phrase qui est venue dans ma tête, et c'était « je vois pas pourquoi c'est moi qui devrais me sentir honteuse, parce que si j'ai honte de mes bras, ça veut dire que j'ai honte de moi, et stop, parce que les personnes qui devraient avoir honte, c'est celles et ceux qui jugeront mon corps, en fait, et qui jugeront mes bras, et à partir de ce moment-là, quand je me suis dit ça, ça allait déjà beaucoup mieux, et je me suis sentie tout d'un coup pleine d'énergie, pleine de... Ouais, je me suis sentie comme une warrior, de me dire que c'était pas à moi d'avoir honte, c'était aux gens qui jugent, en fait, et que s'ils étaient pas contents, ils avaient qu'à regarder ailleurs. Donc voilà, oui, je suis une personne grosse, oui, j'ai des gros bras, oui, j'ai des grosses cuisses, et si j'ai envie de les montrer et de les mettre dehors quand il fait chaud, c'est mon problème, et ça regarde que moi. Voilà.
Yes!
Trop bien, merci J'adore. Beaucoup Linda.
Trop bien, bravo.
Quand j'ai parlé de ton témoignage à Marga, j'ai résumé avec une phrase, c'est « Je suis warrior, je mets mes bras dehors.
» On va en faire des t-shirts.
Mais de ouf, c'est trop bien, félicitations, force à toi. Je précise quand même que le terme TCA veut dire « trouble de la conduite alimentaire » pour celles et ceux qui ont la chance de ne pas connaître.
Ouais, et moi ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis aussi, c'est bah, « c'est pas à moi d'avoir honte » et ce truc du renversement en fait de la
c'est génial.
Honte, c'est en fait on en parle souvent ici à Yes hein, parce que c'est valable surtout en fait
beaucoup de sujets
voilà sur énormément
reprise
de sujets
du pouvoir.
Voilà reprise du pouvoir et bah en fait c'est pas à moi d'être mal à l'aise avec ce que je suis avec ce que je fais c'est aux personnes qui se moquent aux personnes qui m'agressent
qui discriminent
voilà qui c'est ces personnes là qui devraient avoir honte quoi voilà
et donc exactement
c'est important effectivement de le rappeler.
Gardez ça en tête, vous n'avez pas à avoir honte de qui vous êtes et de ce à quoi vous ressemblez.
Tout à fait.
Alors en préparant l'épisode, on a eu un échange passionnant avec Marga sur Vinted, dont j'avais la naïveté de penser que c'était un bon plan.
Ouais, bah moi c'est vrai que c'est un sujet qui m'intéresse depuis un petit moment, parce que Vinted c'est quand même une énorme plateforme avec énormément de choses. Enfin, moi j'ai toujours ce truc qui s'allume dès qu'il y a un truc qui devient trop énorme, je dis c'est ma petite conscience, c'est mon petit warning anticapitaliste qui se réveille. Et donc j'ai lu pas mal de contenu là-dessus sur Vinted, est-ce que c'est une bonne chose ou pas, parce que voilà on se dit toujours non mais c'est moins grave que d'aller sur Shein en fait Vinted quand même sauf que donc ce que je vous recommande moi c'est déjà d'écouter un podcast de nouvelles écoutes qui s'appelle Splash et qui s'appelle Faut-il vraiment vendre nos vêtements sur Vinted, donc je l'ai écouté et je vous fais donc un petit résumé en 3 points pourquoi Vinted, ça craint. Alors déjà, point numéro 1, Vinted, ça pollue. Et oui, c'est totalement contre-intuitif parce que la marque, elle joue beaucoup avec ça, avec un écosystème qui serait écolo parce que c'est de la seconde main, donc on ne produit pas de nouveaux vêtements. Sauf qu'en fait, Vinted, ça pousse vraiment à surconsommer. Depuis qu'il y a Vinted, enfin rappelez-vous hein, comment on faisait quand il n'y avait pas Vinted, mais depuis qu'il y a Vinted, c'est des fois, ah bah tiens, je vais acheter cette fringue, même si j'ai pas pu l'essayer, je sais pas si elle va vraiment bien, ou ouais, peut-être, je sais pas, mais non, mais au pire, je revendrai sur Vinted avec l'étiquette et voilà, je rentrerai quasiment dans mes frais.
Le piège.
C'est un énorme piège en fait, parce que ça nous pose donc à surconsommer, et c'est vraiment la base du modèle de Vinted qu'on achète beaucoup et qu'on revende beaucoup, parce que pour qu'il y ait beaucoup d'offres et beaucoup de choix pour que les gens reviennent systématiquement sur la plateforme, en fait c'est exactement le même système que les H&M ou les Primark, c'est on fait des nouvelles collections tous les 15 jours, il y a des nouveautés tous les 15 jours pour vous pousser à revenir. Ben, Vinted c'est exactement pareil, faut qu'il y ait beaucoup de fast fashion, que les gens revendent beaucoup de fast fashion pour bah, revenir et se dire bah tiens j'ai pas trouvé ce que je veux maintenant, peut-être dans 15 jours je vais le trouver quoi. Donc voilà, c'est vraiment pas du tout écolo, sans parler en plus de tous les colis qui circulent et voilà hein, qui
c'est écologie bonjour
voilà hein, c'est des colis qui sont transportés par camion, parfois par avion, certes ils arrivent à votre porte avec les petits vélos électriques du facteur, mais voilà, ça pollue encore, ça pollue vraiment énormément, donc gardez ça en tête la prochaine fois que vous non, mais c'est pas grave, c'est quand même écolo Vinted. Non, c'est faux, c'est archi faux, c'est du greenwashing. Alors ensuite, deuxième point, c'est que Vinted, ça tue complètement l'économie du don. Avant Vinted, quand un vêtement ne nous allait pas, ben, on le donnait. Soit on le donnait à des proches, à une copine, à une sœur, à des amis, mais aussi à des associations, et notamment celles qui ont une économie en dehors du libéralisme, comme Emmaüs, par exemple, qui emploie des personnes en insertion professionnelle, et leur modèle, en fait, c'est de récupérer, alors pas seulement des vêtements, hein, mais aussi des meubles, des choses comme ça, mais de récupérer des choses et de les revendre, et c'est ça qui leur permet, en fait, de payer les personnes qu'elles emploient. Sauf que Emmaüs note que la qualité des dons s'est énormément dégradée avec l'avènement des plateformes comme Vinted ou Le Bon Coin aussi d'ailleurs, hein, que les vêtements sont en moins bon état, ils sont plus usés, ils sont tachés, ou il y a aussi moins de vêtements de marque, parce qu'effectivement les vêtements de marque se revendent plutôt bien sur Vinted. Donc voilà, aujourd'hui on préfère se faire de l'argent parce que c'est facile aussi, et donc ça met en péril ces modèles-là associatifs qui fonctionnent différemment. Donc vraiment, si vous pouvez, ne vendez pas. Si tu ne le portes plus, donne-le. C'est toujours ça que les multinationales capitalistes n'auront pas. Et enfin, troisième point qui a été développé dans le podcast Splash et que vraiment je trouve que c'est un super argument féministe. Vinted, alors c'est une entreprise, une multinationale dont on ne connaît pas le chiffre d'affaires. Mais ce qu'on sait par contre, c'est que Vinted s'appuie sur le travail gratuit
des femmes.
Voilà. Pas de surprise. Et oui, parce que en fait, dans un magasin normal ou même quand on fait en ligne, quand on achète en ligne, en fait, il y a des personnes qui sont payées pour mettre en rayon les produits, pour faire le réassort, pour faire l'inventaire, pour prendre des photos, pour les mettre en ligne. Voilà, tout ça, c'est du travail en fait, du marketing ou de la vente. Il y a des personnes, voilà, dans ce métier qui sont payées, certes, parfois très mal. Hein, on le voit hein, souvent les personnes qui travaillent dans les boutiques, dans les grandes chaînes. De vêtements, c'est précaire et souvent c'est payé au SMIC, mais ça reste un travail payé qui permet au moins de survivre. Mais de Vinted, en fait, qui c'est qui travaille en fait ? Eh ben c'est toi. Et souvent, toi, t'es une femme qui va prendre beaucoup de temps pour répondre aux règles de Vinted, pour
mettre en scène ton produit.
Voilà, le prendre en photo, le mettre sur une jolie tringle, le repasser.
Une belle lumière.
Voilà. Et ensuite, tout le travail de marketing, de mettre en avant tes contenus, en publiant régulièrement, en répondant aux personnes qui te contactent, en donnant des informations, et puis en allant à la poste pour faire ton colis. Tout ça, c'est énormément de temps. T'as l'impression de gagner de l'argent parce que tu revends ton truc 10 balles, mais en vrai, compte le nombre d'heures que tu as effectivement passé à vendre toutes les fringues de ton dernier né qui sont devenues trop petites.
C'est pas
toujours rentable, vu le temps que tu y passes. Voilà, donc moi je trouve que cet argument de Vinted se repose sur le travail gratuit des femmes, en fait, voilà, c'est déjà l'argument suffisant pour complètement boycotter.
Game killer.
Voilà, donc voilà, à toutes. Les personnes, là, on en a beaucoup parlé dans l'épisode, à qui on dit non, mais tu devrais aller sur Vinted parce que c'est plus éthique. Bah voilà.
Bah stop.
Voilà,
on
stop.
Y réfléchit maintenant.
Trois arguments pour y répondre. Et bah, si vous voulez en savoir plus, je vous invite vraiment à écouter ce podcast Splash. Faut-il vraiment vendre nos fringues sur Vinted ?
Merci beaucoup. On arrive à la fin de cet épisode.
Oh, déjà ?
Alors, on l'aura compris, s'habiller quand on est une personne grosse est un défi multiple. Lorsqu'on a réussi à surmonter sa grossophobie intériorisée, son rapport à l'image, ses troubles alimentaires, on peut être confronté à l'immense grossophobie de l'industrie textile. Coucou Uniqlo. Et on n'a pas toujours le budget de faire autrement que d'acheter des produits de la fast fashion. Donc si tu es concerné, sache que rien que ce contexte fait de toi une incroyable warrior.
C'est clair. Bravo.
J'espère que cet épisode t'a plu. Tu pourras l'écouter sur ta plateforme de podcast préférée. Et même nous laisser une pluie d'étoiles en commentaire. Tu peux évidemment nous suivre sur les réseaux. Notre compte, c'est Yes Podcast avec
3 S.
Yes. Alors, pour nous contacter ou nous raconter tes victoires, nous partager un moment feel good, n'hésite pas à nous laisser un vocal sur notre WhatsApp au 07 45 65 56 75. Je répète, j'adore, ça fait très téléphone.
Allez,
rose.
Allez, on fait en cœur, vas-y.
07 45 65 56 75. D'ici là, encore une fois, n'oublie pas, dans cette société validiste, sexiste, grossophobe, s'habiller reste en droit. Et faire face à tout ça fait de toi une warrior anyway. Peu importe ton style, ta morphologie, valide ou non, grosse ou non, on t'aime comme tu es.
Yes!